Du chien dans le ventre, la commune au jour le jour. Une série en 10 épisodes, un récit de Patrick Lemoyal. Aujourd'hui, épisode 4, l'outil à l'ouvrier.
Là, on va aborder la semaine du 9 au 15 avril, du dimanche 9 au samedi 15 avril. Alors, c'est une semaine dans laquelle l'ambiance générale de la commune change. Il change parce que l'offensive militaire qui a été lancée la semaine dernière, la sortie ratée, provoque une réorganisation de l'ensemble du dispositif militaire de la commune autour de Cluseret, qui cherche à militariser un petit peu la garde nationale. J'en avais parlé la semaine dernière. Mais surtout, il y a à partir de cette date-là, Paris est bombardé en permanence. Paris est occupé par les Prussiens, le nord et l'est, en gros, et par les Versaillais au sud et à l'ouest. Au sud, les bombardements n'atteignent pas Paris. Ils sont sur Issy et Vanves. Il y a à quelques centaines de mètres en avant des fortifications parisiennes, un système de fort qui avait été mis en place pour contrer les Prussiens, qui a déjà été attaqué par les Prussiens, mais qui est un système avec plusieurs forts, en particulier Vanves et Issy, qui vont concentrer les affrontements parce que c'est ce système Vanves Issy qui est un système de forts avec des tranchées entre les forts qui en font un dispositif global, quoi. Bon. Et c'est la clé pour rentrer dans Paris par le sud. Donc les bombardements commencent sur Issy et Vanves et vont durer un certain nombre de temps parce que c'est vraiment une clé stratégique au niveau militaire. À l'ouest, en fait, la guerre est une guerre par bombardement et aussi des affrontements plus directs, notamment à Asnières et Neuilly, et entre Neuilly et la Porte Maillot, enfin tout l'ouest de Paris. Et toute cette semaine-là, on a à la fois des bombardements des Versaillais, mais qui sont des bombardements avec les limites de l'époque, c'est-à-dire que dans la journée, le dimanche et le lundi, c'est les dimanches et lundis de Pâques, il fait beau, il y a la foule qui est sous l'Arc de Triomphe pour voir les bombardements sur Neuilly, parce que la portée des armes est telle qu'on peut se dire qu'on risque rien à être sous l'Arc de Triomphe à regarder les bombardements à Neuilly. Il y a vraiment des foules, hein. Il y a des gardes nationaux qui contraignent la foule pour qu'elle gêne pas les passages de régiments qui vont combattre à Neuilly, à Asnières, à Neuilly, etc. Bon. Sur ce flanc-là, l'arrivée de Dombrowski a modifié le rapport de force, il a lancé des offensives, et donc on est plus à une guerre de bombardements, de mitraille et y compris de combats derrière des barricades sur les avenues à Neuilly. Donc ça, c'est tous les jours. C'est-à-dire que les bombardements sont plus ou moins forts, mais les habitants de Paris vivent à partir de cette date-là dans une ambiance où tous les jours, il y a des bombardements, il y a des gens qui sont tués, il y a les soldats qui sont tués, enfin les soldats, les gardes nationaux, les fédérés, mais il y a aussi des habitants, parce que évidemment les bombes, elles écrasent des maisons, bon, voilà. Et donc, la garde nationale et la commune mettent en place un système d'ambulance qui n'existait pas vraiment sous cette forme-là. Donc il y a vraiment un gros effort qui est fait pour mettre en place des hôpitaux de campagne, un système d'ambulance qui accompagne tous les bataillons de la garde nationale. Et il y a encore Par exemple, le dimanche 9 avril, les obsèques d'un colonel tué à Neuilly, il y a 100 000 personnes. Donc, il y a régulièrement des obsèques avec des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui sont là avec, derrière les corbillards ornés de rouge avec des grands défilés militaires. Enfin, bon, donc, c'est vraiment la guerre est présente. La guerre est omniprésente, même si elle touche que l'Ouest et le Sud parisien, et le Sud parisien, elle n'atteint pas l'intérieur de Paris, hein, pour le moment. Donc ça, c'est ce qui se passe, alors, y compris à l'Ouest, ce qui est du côté de Neuilly, la grande innovation, c'est l'utilisation de wagons blindés par l'armée fédérée qui permettent d'être assez mobiles et de contrecarrer les attaques versaillaises. La deuxième grande chose qui est décidée, c'est la mise en place d'un système de barricades à l'intérieur de la ville. C'est-à-dire de préparer un deuxième niveau de résistance après celui des fortifications, d'avoir un deuxième système de protection après les fortifications. Alors, durant toute la semaine, il y a une commission des barricades qui est nommée, mais il y a toute une discussion sur la conception des barricades. Parce qu'en gros, les barricades qui jusqu'à présent se faisaient étaient des barricades principalement avec des pavés. Or, tous les militaires disent franchement, quand on a une artillerie en face de soi, si les pavés explosent, ça devient autant de projectiles. Donc, il faut concevoir les barricades autrement. Il faut que ce soit des barricades où il y a peut-être des pavés au centre, mais à l'extérieur, c'est de la terre. Et puis, il y a des normes de barricades, avec des barricades de 4 mètres de haut, tant de largeur, tant de sable, de sable de terre, avec des sacs qui recouvrent les pavés, et puis des tranchées devant, des systèmes de... Enfin bon, voilà, je ne veux pas décrire... mais il y a des grands chantiers qui sont mis en place. Hein. La voirie détruit les barricades qui ne sont pas très efficaces, pour en construire selon ces nouvelles des normes ou dispositions. Mais il y a une très grande gros chantier qui commence au coin de la Concorde et de la rue de Rivoli, qui est une barricade absolument gigantesque, qui est en train de se construire, qui est l'équivalent d'une fortification en plein centre de Paris. Quoi.
Élie Reclus, 44 ans, journaliste. Tout d'un coup, Paris soubresaute, surpris par ce formidable vacarme. Et de minute en minute, l'inquiétude allait croissant avec le bruit. Il venait à la fois du sud et de l'ouest. L'enceinte était attaquée sur plusieurs points, du côté de Montrouge, de Vanves, d'Issy et d'Asnières. Asnières, dont s'était emparé par un intelligent coup d'audace le général Dombrowski. Oui, pour avoir un pied sur l'autre rive de la Seine et prendre en face les assaillants de Neuilly. Les boutiques se fermaient précipitamment, les cafés se vidaient, des groupes nombreux se formaient dans les rues et sur les places. Les hauteurs de Montmartre et de Belleville s'étaient couvertes de curieux, regardant les lueurs qui sillonnent le ciel. On aurait dit Paris, assailli dans la nuit par la foudre et les éclairs. J'étais au centre de Paris quand j'entendis la première décharge. Mon cœur battait, ses coups de canon, ses mitrailleuses, ces feux de file de peloton qui se succédaient sans interruption me mettaient en émoi. J'allais vers le point qui me semblait le plus menacé, celui de Montrouge.
Troisième chose du point de vue militaire, quand j'ai dit qu'il y avait du point de vue de la direction militaire, la volonté d'aller de plus en plus vers une garde nationale et des fédérés militarisés, bon, il y a les compagnies de guerre qui sont des compagnies avec une obligation hein, de tous les hommes âgés de plus de 19 ans à 40 ans. Et du coup, évidemment, toute la composition de la garde nationale est modifiée par ça. Et il y a une circulaire qui paraît pour la réélection au sein de la garde nationale, parce qu'il y a une militarisation, mais on n'ose pas toucher au système électoral. Mais ceci dit, il est très très bien précisé que les élections qui sont réorganisées doivent être des élections qui permettent l'expression à tous les gardes nationaux de revendications, d'organisations, d'élections des délégués, mais surtout pas d'immixion dans la direction des affaires militaires. Donc, hein, parce que jusqu'à présent, la garde nationale élisait tous ses officiers, mais là, il y a véritablement la volonté de Cluseret et de la direction militaire de contrôler effectivement tous les choix, les choix militaires. Dernier point qui est tout à fait qui va dans le même sens d'une forme de contrôle, c'est l'instauration de tribunaux militaires. Hein. De conseils qui peuvent condamner des soldats, des gardes, pardon, qui peuvent condamner des gardes qui n'obéissent pas aux ordres. Enfin, et donc, il y a des conseils par bataillon, par légion. La seule garantie, hein, c'est tout. Il y a possibilité il y a des voies de recours. Et ce qui est même décidé, c'est quand il y a une condamnation à mort, c'est la commune qui décidera en dernier recours si la condamnation à mort doit s'appliquer. Et souvent, on dit la commune fait disparaître la peine de mort. Ce n'est pas tout à fait vrai, y compris là. Formellement, il y a une décision qui est si le conseil, si les cours martiales décident que quelqu'un doit être fusillé, c'est la commune qui décidera au bout du compte si cette décision doit s'appliquer. Alors, donc ça, c'est tout ce qui se passe au plan militaire. Bon, alors ça a un effet, ce qui se passe là, c'est que l'obligation de servir dans la garde nationale provoque une réaction des hommes qui n'ont pas envie de participer à cette guerre, qui ne sont pas des partisans de la commune. Autant dans les quartiers ouvriers, la pression sociale fait que tout le monde y est, autant dans les quartiers moins ouvriers, ce n'est pas tout à fait ça. Et il commence à y avoir ce qui s'appelle à Paris des francs-fileurs, des gens qui quittent la capitale, tout simplement, ou qui se cachent, ou qui quittent la capitale. La fuite continue régulièrement, quoi, hein. Il y a des gens qui partent. Bon. Et deuxièmement, le décret des otages qui a été adopté a pour conséquence que les arrestations se multiplient. Alors les arrestations, elles sont opérées par la préfecture de police. La préfecture de police, je l'avais dit, avait été investie par les blanquistes. Alors ils appelaient ça de manière assez étrange l'ex-préfecture de police, alors qu'elle continuait à faire le même boulot qu'avant. Enfin bon, passons. Mais l'essentiel des arrestations sont des arrestations d'hommes d'église, hein, de prêtres, de membres de la hiérarchie catholique. Bon, et ça provoque des réactions, y compris populaires. Hein. Il y a une ou deux manifestations cette semaine-là. Il y a au moins une manifestation, je crois qu'il y en a même deux, manifestations de femmes qui disent notre curé, on a envie qu'il vienne pouvoir faire l'église, on ne veut pas qu'il soit libéré, etc. Enfin, donc, il y a tout ce climat-là, ce qui fait que la commune prend une première décision, mais il va y en avoir d'autres, malheureusement, dans le même sens, qui, en gros, cherche à cadrer les arrestations. Parce que il y a les arrestations par la préfecture de police, mais il y a aussi les arrestations, qui sont décidées partout. C'est-à-dire, si une légion de la garde nationale estime que tel individu est dangereux, crac, ils vont l'arrêter, le mettre en prison, quoi. Bon, et donc, entre les arrestations de la préfecture de police qui sont décidées par les blanquistes, essentiellement, et puis toutes ces arrestations, on a quand même quelque chose qui est assez peu contrôlé par la commune elle-même, qui cherche à le contrôler plus ou moins. Parce que du côté de la commune, par exemple, il y a eu 150 libérations de gens qui étaient en prison pour des raisons qui n'avaient aucune justification. Donc le délégué à la justice, Proto, est quelqu'un qui essaye de faire fonctionner tout ça de manière assez respectueuse des libertés individuelles.
Paul Lafargue, 29 ans, journaliste, membre de l'Internationale. Cette terrible soirée du 11 au 12. Les deux jours qui avaient précédé avaient été calmes. À peine si de loin en loin, on avait entendu quelques coups de canon. La population, paisible, se réjouissait de cette éclaircie qui pourrait l'annoncer le beau temps. Depuis quelques jours, il était parti de Paris avec le consentement de la commune, plusieurs députations ayant pour mission de mettre un terme à la guerre civile. Si dans les grands quartiers, les cafés et les restaurants sont déserts, les squares et les jardins publics des quartiers populeux sont, comme d'habitude, égayés par leur bruyante population d'enfants qui vont, viennent, courent, crient, piaillent, pleurent au milieu des femmes qui causent, les unes en bâillant, les autres en travaillant, sans plus s'occuper des terribles combats qui, nuit et jour, se livrent depuis Asnières, le Valois-Perret jusqu'au Fort-Montrouge et le Petit-Bicêtre. Le sourd grondement du canon et le sinistre roquement du canon les laissent, mais impassibles. Ce silence faisait augurer un heureux résultat. On se disait tout bas qu'il y avait entente tacite et que l'on suspendait jusqu'à nouvel ordre les hostilités, quand tout à coup, le 11, vers 9h du soir, une épouvantable canonnade ébranla l'air. L'illustre Mac Mahon venait de prendre le commandement des troupes versaillaises. La foule affolait, se précipitait désordonnée dans les rues. On s'abordait, on se questionnait. Les femmes, toutes tremblantes, faisaient des questions incohérentes. Jamais pendant tout le siège on n'avait entendu canonnades si furieuses et si rapprochées. On croyait les royalistes dans Paris. Le cœur des patriotes se serra. Chacun courut à son arme, prêt à la guerre des rues, où ils sont toujours sûrs de vaincre. Malgré l'épouvante qui envahit la ville, le rappel ne fut pas battu. L'attaque prévue et attendue depuis 2 jours fut vigoureusement repoussée. Au bout d'une heure, 1h30, tout le bruit infernal était éteint. Les royalistes étaient battus. Un cri d'indignation sortait de toutes les poitrines. Les Prussiens de Versailles imitaient la tactique des Prussiens de Bismarck. Ils croyaient que la vigilance des fédérés avait été endormie par toutes ces démarches conciliatrices et ils profitaient du moment pour frapper leur grand coup.
Dernier point avant de venir aux mesures qui sont prises par la commune, parce qu'il y a une série de mesures qui sont absolument majeures cette semaine-là, c'est ce qui se passe du côté de ce qui convient d'appeler les conciliateurs. Alors les conciliateurs, c'est essentiellement c'est les députés qui sont pas favorables à la commune, mais qui sont pas restés à Versailles, qui sont revenus à Paris, donc qui sont entre deux. Il y a aussi les chambres patronales, les chambres artisanales patronales, bon, qui essayent de servir d'intermédiaire avec Thiers. Donc, à partir de cette période-là, il va y avoir toutes les semaines des délégations. On y reviendra dans les semaines suivantes, mais il y a toutes les semaines des délégations à Thiers au gouvernement, en essayant de trouver un modus vivendi. Et en gros, le comportement de Thiers, la réponse est absolument systématique. C'est premièrement, je ne négocie pas tant qu'ils sont armés. C'est à l'insurrection de désarmer. Deuxièmement, quand on lui dit, mais est-ce que vous proclamez la République ? Il dit, tant que je suis là, c'est la République. Hein. Je rappelle l'accord qui avait été conclu dans cette assemblée de Bordeaux, qui est majoritairement monarchiste et bonapartiste. C'est en gros, on ne parle pas de la République. Elle a été proclamée au mois de septembre, mais on n'est pas une assemblée constituante, donc on ne dit pas que la République est instaurée. C'est un état de fait, voilà. Bon. Or, il y a une vraie pression populaire, populaire, mais pas seulement du peuple de Paris, pour le coup, là. Une vraie pression dans l'ensemble de la population française sur la question de la République, et la réponse de dire est tant que je suis... La République est là. Bon, alors que bon. Et troisièmement, une loi qui permet l'élection des conseils municipaux. Et durant cette semaine-là, la réponse de Thiers, c'est de toute façon, il y a une loi qui va permettre l'autonomie municipale et il n'y a pas de problème. Bon, la loi qui est adoptée par l'Assemblée de Versailles cette semaine-là, c'est une loi qui élit les conseils municipaux dans les villes de moins de 20 000, les conseils municipaux élisent leur maire parmi eux. Mais dans les villes de plus de 20 000 et dans les chefs-lieux de département, le conseil municipal est élu par le vote des électeurs, mais le maire est désigné par le pouvoir politique, parmi les membres du conseil municipal. Et pour Paris, c'est encore un autre système qui n'est pas encore tout à fait calé. Donc on voit que la conciliation, elle peut pas s'opérer. Et pour une raison absolument fondamentale, c'est que Thiers, pour s'imposer dans cette, comment dirais-je, dans cette assemblée monarchiste bonapartiste, pour imposer son rapport de force, doit écraser Paris. Il doit montrer que sa capacité à diriger, la capacité de la bourgeoisie à diriger, c'est d'écraser le peuple ouvrier de Paris qui est en insurrection.
Sauf des mouchards.
Et des gendarmes.
On ne voit plus
par les chemins.
Que des vieillards.
Tristes en larmes.
Des veuves.
Des orphelins.
Paris suinte de la misère. Les heureux mêmes sont tremblants. La mode est au conseil de guerre.
Et les pavés sont tous sanglants.
Oui, mais sabrons-le dans le manche. Les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. On traque,
on enchaîne,
on fusille.
Tout ce qu'on ramasse au hasard.
La mère à côté de sa fille.
L'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur. De tous les chenapans de bouge. Valets de rois et d'empereurs.
Oui, mais. Sabrons-le dans le manche. Les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche. Quand tous les pauvres s'y mettront, nous voilà
rendus aux Jésuites, aux MacMahon, aux Dupanloup. Il va pleuvoir des eaux bénites. Laisserons vous faire un argent fou. Dès demain, en réjouissance. Et Saint-Eustache et l'Opéra pour se refaire concurrence. Et le bagne se peuplera.
Oui, mais. Sabrons-le dans le manche. Les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche.
Demain, les Manon, les Lorettes et les dames des beaux faubourgs porteront sur leurs collerettes des chasse-pots et des tambours. On mettra tout au tricolore, les plats du jour et les rubans, pendant que le héros Pandore fera fusiller nos enfants.
Oui, mais. Sabrons-le dans le manche, les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront.
Demain, les gens de la police refleuriront sur les trottoirs. Fiers de leurs états de service. Et le pistolet en sautoir, sans pain, sans travail, sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards, des gendarmes, des sabres peuples,
des curés. Des sabres peuples et des curés.
Oui, mais. Sabrons-le dans le manche, les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche. Quand tous les pauvres s'y mettront,
le peuple au collier de misère,
sera-t-il donc toujours rivé? Jusque à quand?
Les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé?
Jusque à quand?
La Sainte Clique nous croira-t-elle un vil bétail?
À quand?
À quand?
Enfin,
la
Maintenant, quelles sont les grandes décisions qui sont prises cette semaine-là? Les grandes mesures de la commune. Premièrement, il y a un débat qui dure toute cette semaine-là, mais dans lequel il n'y a pas de décision, c'est la discussion sur les échéances. Alors, la discussion sur les échéances, c'est une discussion extrêmement importante. Hein. Ce sont les dettes qu'ont des entreprises qui ont pris des engagements, qui n'ont pas les moyens de payer parce qu'il n'y a plus de travail depuis plusieurs mois. Donc la question des échéances, elle est à la fois importante pour tout le monde, c'est pour les grosses entreprises, mais aussi pour les petits artisans. Donc c'est une question parfaitement délicate. Donc il y a toutes sortes de propositions qui paraissent, qui sont éditées. Il y a des débats à la commune, mais ils n'arrivent pas à trancher cette question-là parce que c'est une question trop compliquée. Donc il faut vraiment prendre le temps. Deuxième chose, donc il y a un décret extrêmement important, c'est le décret qui institue une pension pour les veuves et les enfants des citoyens morts pour la défense. Bon, alors donc derrière un texte qui est un texte qui permet aux gens, parce que comme les gens vivaient avec les 30 sous du garde national, quand le garde national est tué, la famille n'a plus rien. Bon, mais le texte est décisif dans le sens où la commune de Paris, ayant adopté les veuves et les enfants de tous les citoyens morts pour la défense des droits, veuves et enfants de tous les citoyens, décrète qu'une pension sera accordée à la femme du garde après enquête qui établira ses droits. Et chacun des enfants, reconnus ou non, recevra, etc., etc. Et donc là, en me disant « femme et pas épouse », c'est une rupture totale avec la place des femmes telle qu'elle a été instituée par le code civil de Napoléon.
La Commune de Paris, ayant adopté les veuves et les enfants de tous les citoyens morts pour la défense des droits du peuple, décrète. Article 1er. Une pension de 600 francs sera accordée à la femme du garde national tuée pour la défense des droits du peuple, après enquête, qui établira ses droits et ses besoins. Article 2. Chacun des enfants, reconnu ou non, recevra, jusqu'à l'âge de 18 ans, une pension annuelle de 365 francs, payable en 12e. Article 3. Dans le cas où les enfants seraient déjà privés de leur mère, ils seront élevés aux frais de la commune, qui leur fera donner l'éducation intégrale nécessaire pour être en mesure de se suffire dans la société. Article 4. Les ascendants, pères, mères, frères et sœurs de tout citoyen mort pour la défense des droits de Paris et qui prouveront que le défunt était pour eux un soutien nécessaire pourront être admis à recevoir une pension proportionnelle à leurs besoins dans les limites de 100 à 800 francs par personne. Article 5. Toute enquête, nécessitée par l'application des articles ci-dessus, sera faite par une commission spéciale, composé de 6 membres délégués à cet effet dans chaque arrondissement et présidé par un membre de la commune appartenant à l'arrondissement. Article 6. Un comité, composé de 3 membres de la commune, centralisera les résultats produits par l'enquête et statuera, en dernier ressort. Paris, le 10 avril 1871.
On reconnaît l'union libre par ce texte. Puisqu'il n'y a pas besoin d'être marié, il n'y a pas besoin de reconnaître l'enfant, il suffit qu'on fasse une enquête dans le quartier pour vérifier que la dame X vivait bien avec le monsieur Y, et donc elle a le droit à l'aide. Mais c'est quelque chose absolument considérable. Hein. Ça concerne un tiers des femmes des quartiers populaires qui ne sont pas mariées. L'union libre est une pratique sociale très développée, hein, dans les quartiers populaires. Et donc cette mesure est une mesure révolutionnaire. À partir d'un texte qui institue une pension pour les veuves et les enfants, on opère une rupture totale sur l'idée même que doit être le mariage, l'institution du mariage. Alors, d'autant que dans toutes les années qui ont précédé, il y a des débats très très violents sur la question de l'union libre et tout ça. Et c'est pas du tout marginal comme débat. Et c'est au cours de cette semaine-là que va se constituer une institution extrêmement importante pour les semaines qui viennent, qui est l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Alors il y avait des manifestations de femmes, il y a des clubs, j'y reviendrai, qui sont spécifiquement féminins, il y a une activité féminine dans les quartiers très importante, mais là se constitue un mouvement politique et revendicatif qui s'appelle l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés, qui est animé en fait par des militantes de l'Internationale, hein, les deux plus connues, les deux plus actives, sont Nathalie Lemel, qui est une ouvrière relieuse, qui avait créé avec Varlin une cantine associative, la Marmite, qui était membre des chambres ouvrières, et l'autre c'est Elisabeth Dmitrieff, qui n'est pas tout à fait son nom, enfin bon, elle est connue sous ce nom-là, qui est en fait une jeune révolutionnaire, membre de l'Internationale, qui a été envoyée par l'Internationale dès le début de la Commune de Paris. Bon, et ce qui est important dans l'expression de cette union des femmes, c'est-à-dire qu'elle est là pour organiser par arrondissement les femmes, pour celles qui sont prêtes à servir pour les ambulances ou pour faire à manger ou pour se battre, et à politiser et à organiser les femmes par arrondissement, par des dizaines et des dizaines de réunions qui vont être organisées à partir de là. Et le texte de création politique de l'Union des femmes, c'est « Considérant que la commune représente le grand principe proclamant l'anéantissement de tout privilège, de toute inégalité. »
Considérant qu'il est du devoir et du droit de tous de combattre pour la grande cause du peuple, pour la Révolution. Que le péril est imminent et l'ennemi aux portes de Paris. Que l'union faisant la force, à l'heure du danger suprême, tous les efforts individuels doivent se fusionner pour former une résistance collective de la population entière, à laquelle rien ne saurait résister. Que la commune représente le grand principe proclamant l'anéantissement de tout privilège, de toute inégalité. Par là même est engagée à tenir compte des justes réclamations de la population entière, sans distinction de sexe. Distinction créée et maintenue par le besoin de l'antagonisme sur lequel reposent les privilèges des classes gouvernantes. Que le triomphe de la lutte actuelle, ayant pour but la suppression des abus, et dans un avenir prochain la rénovation sociale tout entière, assurant le règne du travail et de la justice, a par conséquent le même intérêt pour les citoyennes que pour les citoyens. Que le massacre des défenseurs de Paris par les assassins de Versailles exaspère à l'extrême la masse des citoyennes et les pousse à la vengeance. Qu'un grand nombre d'entre elles est résolu, au cas où l'ennemi viendrait à franchir les portes de Paris, à combattre et vaincre ou mourir pour la défense de nos droits communs. Qu'une organisation sérieuse de cet élément révolutionnaire, en une force capable de donner un soutien effectif et vigoureux à la Commune de Paris, ne peut réussir qu'avec l'aide et le concours du gouvernement de la commune. Les délégués des citoyennes de Paris demandent à la commission exécutive de la commune, premièrement, de donner l'ordre aux mairies de tenir à la disposition des comités d'arrondissement et du comité central, institué par les citoyennes pour l'organisation de la défense de Paris, une salle dans les mairies des divers arrondissements, ou bien en cas d'impossibilité, un local séparé où les comités pourront siéger en permanence. Deuxièmement, de fixer, dans le même but, un grand local où les citoyennes pourront faire des réunions publiques. Troisièmement, de faire imprimer aux frais de la commune les circulaires, affiches et avis que les divers comités jugeront nécessaires de propager. Pour les citoyennes déléguées, membres du comité central des citoyennes, Adélaïde Valentin, ouvrière, Noémie Coyeuil, ouvrière, Marquant, ouvrière, Sophie Gray, ouvrière, Joséphine Pratt, ouvrière, Céline Delvinquier, ouvrière, Aimée Delvinquier, ouvrière, Elisabeth Dmitrieff.
Et c'est vraiment un courant politique, qui organise effectivement les femmes, mais pas seulement autour de « on fait à manger, on défend les gens », mais autour des droits et de l'indépendance des femmes. Avec une chose qui commence à ce moment-là, qui existait avant, mais là, qui est assez systématique, c'est qu'il y a des réunions non mixtes. C'est-à-dire qu'il y a des assemblées qui sont des assemblées dans lesquelles les hommes n'ont pas le droit de rentrer, tout simplement, mais des assemblées de plusieurs centaines de femmes. Parce que la constitution de cette union des femmes pour la défense de Paris et les soins blessés, elle essaime des structures, elle a un comité central, enfin c'est une vraie organisation, et ce sont des réunions non mixtes qui sont organisées. Donc là, il se passe quelque chose d'extrêmement important parce que ça va augmenter l'implication des femmes des milieux populaires.
Vous écoutez Du chien dans le ventre, la commune de Paris au jour le jour. Une série en 10 épisodes sur Fréquence Paris Pluriel. Aujourd'hui, épisode 4, l'outil à l'ouvrier.
La deuxième chose qui est décidée, qui est d'un certain point de vue moins importante, c'est la destruction de la colonne Vendôme. Bon, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, mais y compris, il y a une série de... Alors, bon, le texte qui décide la destruction de la colonne Vendôme, c'est « Considérant que la colonne impériale de la place Vendôme est un monument de barbarie, un symbole de force brute et de fausse gloire... »
Considérant que la colonne impériale de la place Vendôme est un monument de barbarie, un symbole de force brute et de fausse gloire, une affirmation du militarisme, une négation du droit international, une insulte permanente des vainqueurs aux vaincus, un attentat perpétuel à l'un des trois grands principes de la République française, la fraternité. Décrète, article unique, la colonne de la place Vendôme sera démolie. Paris, le 12 avril 1871.
Tout le monde trouve, personne ne défend la colonne Vendôme, mais on dit, est-ce que c'est la priorité ? Enfin, je pars parce qu'elle va être détruite longtemps après, parce qu'il faut organiser tout ça, c'est pas facile à faire tomber un truc pareil. Alors, à propos de la décision de la démolition de la colonne Vendôme, il a été reproché à Courbet d'avoir décidé ça. Il n'était pas membre de la commune à ce moment-là, quand la décision a été prise. Il n'a été élu qu'aux élections complémentaires. Mais par contre, Courbet, cette semaine-là, a participé à la mise en place de la Fédération des artistes. Donc le 13 avril, s'est tenue dans le grand amphithéâtre de l'école de médecine une assemblée qu'il présidait avec 400 artistes, pour mettre en place la Fédération des artistes. Il était assisté d'Eugène Potier, il faisait du dessin sur étoffe, Eugène Potier, et qui adopte des statuts, mais qui est quand même la Fédération des artistes. Sa fonction, c'est de gérer les musées, conservation, surveillance, organisation des visites, constater l'état de conservation des édifices, s'occuper des réparations, enfin, etc., etc., et organiser des expositions communales, nationales et internationales, et de gérer l'ensemble des questions culturelles par les artistes eux-mêmes organisés en fédération avec une direction qui va mettre quelques temps à être élue, plusieurs réunions, parce qu'il faut faire représenter tous les types d'artistes. Voilà. Et donc se met en place cette fédération des artistes cette semaine. Autre décision, c'est l'organisation d'élections complémentaires de la commune, puisque... Lors des élections du 26 mars, il y a une série de membres qui avaient été élus dans plusieurs arrondissements, donc ils ne pouvaient pas représenter plusieurs arrondissements. Il y a Blanqui qui est toujours emprisonné. Et puis, il y a les démissionnaires. Il y a ceux qui ont refusé de participer à une assemblée révolutionnaire qui est celle de la Commune. À propos de Blanqui, je voudrais dire un petit mot, parce que c'est cette semaine-là que commencent les négociations pour échanger l'archevêque d'Arbois contre Blanqui. Bon, Blanqui, on ne sait toujours pas où il est. On sait qu'il est arrêté, mais on ne sait pas où il est emprisonné. Les blanquistes s'agitent, ont une grande activité pour essayer de libérer Blanqui. Bon, et commence à avancer l'idée. On a un otage. Alors, c'est un petit peu un glissement de ce qui était prévu dans le décret sur les otages. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, le décret sur les otages, il disait que si des soldats qui ont été arrêtés sont fusillés, il y aura trois otages, il y avait deux textes. Le fait de négocier Darbois et la sœur de Darbois, l'archevêque de Paris, contre Blanqui, ce n'est pas exactement le même sujet. Bon, mais les négociations vont commencer là, les premiers contacts, et Darbois n'est pas hostile à l'idée d'être échangé contre Blanqui. Donc il va y avoir des lettres entre Darbois, Blottière, des intermédiaires, etc. Mais tout commence cette semaine-là. Troisième décision qui est importante, enfin décision... élément qui est important, c'est le fait que les comptes rendus de la Commune vont enfin être publics. Il y avait un débat depuis l'instauration de la Commune sur le fait de savoir si c'était un organe de combat qui n'avait pas à faire connaître ces débats. Bon, là, la décision est prise à partir d'une certaine date, dont je n'ai plus en mémoire. Là, enfin, c'est à ce moment-là que ça se met en place. Les comptes rendus des débats vont être publiés au Journal officiel et vont donc être publics, sauf les réunions en comité secret. Bien, parce qu'il y a des réunions qui nécessitent des choix militaires qui n'ont pas à être rendus publics. Dernier petit point, c'est il y a cette semaine-là un message qui est rédigé par une journaliste qui s'appelle André Léo, qui est une journaliste... Qui joue un rôle très, très important. Alors, c'est son pseudonyme, André Léo. Son vrai nom, c'est Léodile Champsex. C'est une journaliste très importante qui joue un rôle dans toutes ces questions. Et elle écrit un texte qui est un texte absolument excellent, qui est distribué dans toute la France, enfin, avec les moyens à la Commune pour distribuer des textes dans toute la France, mais c'est un texte qui s'intitule « La Commune de Paris aux travailleurs des campagnes ». Alors, il a été écrit principalement par elle et un peu par Benoît Malon, mais surtout elle. Mais c'est un texte qui explique en quoi les intérêts des ouvriers parisiens sont les mêmes que ceux des paysans.
André Léo et Benoît Malon. Commune de Paris aux travailleurs des campagnes. Frère, on te trompe. Nos intérêts sont les mêmes. Ce que je demande, tu le veux aussi. L'affranchissement que je réclame, c'est le tien. Qu'importe si c'est à la ville ou à la campagne que le pain, le vêtement, l'abri, le secours manque à celui qui produit toute la richesse de ce monde. Qu'importe que l'oppresseur est non, gros propriétaire ou industriel. Chez toi comme chez nous, la journée est longue et rude, et ne rapporte pas même ce qu'il faut aux besoins du corps. À toi comme à moi, la liberté, le loisir, la vie de l'esprit et du cœur manquent. Nous sommes encore et toujours, toi et moi, les vassaux de la misère. Voilà près d'un siècle, paysans, pauvres journaliers, qu'on te répète que la propriété est le fruit sacré du travail, et tu le crois. Mais ouvre donc les yeux et regarde autour de toi. Regarde toi-même, et tu verras que c'est un mensonge. Te voilà vieux, tu as toujours travaillé, tout tous tes jours se sont passés la bêche ou la faucille à la main, de l'aube à la nuit. Et tu n'es pas riche, cependant. Et tu n'as pas même un morceau de pain pour ta vieillesse. Tous tes gains ont passé à élever péniblement des enfants que la conscription va te prendre, ou qui, se mariant à leur tour, mèneront la même vie de bête de somme que tu as menée, et finiront comme tu vas finir, misérable. Car la vigueur de tes membres s'étant épuisée, tu ne trouveras guère plus de travail. Tu chagrineras tes enfants du poids de ta vieillesse, et tu te verras bientôt obligé, le bissac sur le dos et courbant la tête, d'aller mendier de porte en porte l'aumône méprisante et sèche. Cela n'est pas juste, frère paysan. Ne le sens-tu pas? Tu vois donc bien que l'on te trompe. Car s'il était vrai que la propriété est le fruit du travail, tu serais propriétaire, toi qui as tant travaillé. Tu posséderais cette petite maison, avec un jardin et un enclos qui a été le rêve, le but, la passion de toute la vie, mais qu'il a été impossible d'acquérir, ou que tu n'as acquise, peut-être malheureux qu'en contractant une dette qui t'épuise, te ronge, et va forcer tes enfants à vendre aussitôt que tu seras mort, peut-être avant même, ce toit qui t'a déjà tant coûté. Non, frère, le travail ne donne pas la propriété. Elle se transmet par hasard ou se gagne par ruse. Les riches sont des oisifs, les travailleurs sont des pauvres et restent pauvres. C'est la règle, le reste n'est que l'exception. Cela n'est pas juste. Et voilà pourquoi Paris, que tu accuses sur la foi de gens intéressés à le tromper, voilà pourquoi Paris s'agite, réclame, se soulève et veut changer les lois qui donnent tout pouvoir aux riches sur les travailleurs. Paris veut que le fils du paysan soit aussi instruit que le fils du riche, et pour rien. Attendu que la science humaine est le bien commun de tous les hommes, et n'est pas moins utile pour se conduire dans la vie que les yeux pour voir. Paris veut qu'il n'y ait plus de roi qui reçoive 30 millions de l'argent du peuple et qui engraisse de plus sa famille et ses favoris. Paris veut que, cette grosse dépense n'étant plus à faire, l'impôt diminue grandement. Paris demande qu'il n'y ait plus de fonctions payées 20 000, 30 000, 100 000 francs, donnant à manger à un homme, en une seule année, la fortune de plusieurs familles. Et qu'avec cette économie, on établisse des asiles pour la vieillesse des travailleurs. Paris demande que tout homme qui n'est pas propriétaire ne paye pas un sou d'impôt. Que celui qui ne possède qu'une maison et son jardin ne paye rien encore. Que les petites fortunes soient imposées légèrement et que tout le poids de l'impôt tombe sur les richards. Paris demande que ce soit les députés, les sénateurs et les bonapartistes, auteurs de la guerre, qui payent les 5 milliards de la Prusse et qu'on vende pour cela leurs propriétés avec ce qu'on appelle les biens de la couronne, dont il n'est plus besoin en France. Paris demande que la justice ne coûte plus rien à ceux qui en ont besoin, et que ce soit le peuple lui-même qui choisisse les juges parmi les honnêtes gens du canton. Paris veut enfin, écoute bien ceci, travailleurs des campagnes, pauvres journaliers, petits propriétaires que ronge l'usure, bordiers, métayers, fermiers, vous tous qui semez, récoltez, suez pour que le plus clair de vos produits aille à quelqu'un qui ne fait rien. Ce que Paris veut, en fin de compte, c'est la terre aux paysans, l'outil à l'ouvrier, le travail pour tous. Oui, les fruits de la terre à ceux qui la cultivent, à chacun le sien, le travail pour tous. Plus de très riches, ni de très pauvres, plus de travail sans repos, ni de repos sans travail. Habitants des campagnes, vous le voyez, la cause de Paris est la vôtre. Et c'est pour vous qu'il travaille en même temps que pour l'ouvrier. Ces généraux qu'il attaque en ce moment, ce sont les généraux qui ont trahi la France. Ces députés que vous avez nommés sans les connaître veulent vous ramener à Henri V. Si Paris tombe, le joug de la misère restera sur votre cou et passera sur celui de vos enfants. Aidez-le donc à triompher. Et quoi qu'il arrive, rappelez-vous bien ces paroles. Car il y aura des révolutions dans le monde jusqu'à ce qu'elles soient accomplies. La terre aux paysans, l'outil à l'ouvrier, le travail pour tous. Les travailleurs de Paris.
Ce que Paris veut en fin de compte, c'est la terre aux paysans, l'outil à l'ouvrier, le travail pour tous. Donc l'axe de ce texte qui est absolument remarquable, c'est ça. Il y a un autre aspect qui est important de mettre en évidence, c'est la place que vont commencer à jouer les clubs. Bon. Les clubs, ce sont... alors, d'abord, c'est quoi ? Parce que, qu'est-ce qu'on appelle club, hein ? Les clubs ont existé pendant la Révolution française, ils ont existé en 1848, ils ont existé pendant le siège, ils ont été interdits en février. Évidemment, dès que la Commune prend le pouvoir, à partir du 18 mars, tous ces clubs se réinstallent. Alors, c'est quoi ? Ce sont des réunions populaires qui se tiennent le soir dans des salles de bal, des amphithéâtres de l'université. Bon, puis après, ce sera les églises. Mais après, au début, c'est pas les églises. Donc, ce sont des réunions dans lesquelles, généralement, on paye son entrée, hein, une petite somme, mais pour couvrir les frais d'éclairage et le chauffage, et qui sont des lieux de vie, c'est-à-dire qu'on mange, on boit, on fume la pipe, enfin voilà, c'est un lieu dans lequel c'est pas un lieu guindé, c'est un lieu de vie. Bon, mais ces clubs sont véritablement des lieux dans lesquels se constitue l'état d'esprit populaire dans Paris. Hein. Il y a entre 20 et 30 clubs à Paris. Hein. Ça veut dire des milliers de personnes qui se réunissent presque tous les soirs. Hein. Donc c'est vraiment considérable. Alors, c'est là où se fabrique une conscience collective. Hein. Parce que dans la Commune de Paris, il n'y a pas de leader. Pour ça que les Blanquistes cherchaient Blanqui, d'ailleurs. Il n'y a pas de leader. L'International et l'organisation, les Blanquistes n'ont pas vraiment de dirigeant. Celui qui était peut-être susceptible de jouer un certain rôle, Tridon, était souffrant. Il n'était pas en état, voilà, il n'avait pas un état de santé qui lui permettait de jouer un rôle central. Bon, et donc l'International et après la force la plus importante, mais l'International est divisé, tous ses membres n'ont pas le même avis, donc c'est pas une force qui est capable d'impulser, et on va le voir sur tout un tas de choix, les membres de l'International ne sont pas d'accord entre eux. Bon. Et donc, comment se constitue cet état d'esprit collectif, hein, puisqu'il y a d'une part les débats dans la garde nationale, puisqu'il y a élection, il y a des débats dans la garde nationale, il y a des lieux de rencontre, comme les cantines, comme la marmite, des lieux de lecture de la presse. Hein. La presse est tirée à des centaines de milliers d'exemplaires. Enfin, je veux dire, il y a plusieurs journaux qui sont tirés entre 50 et 100 000 exemplaires. Donc la presse est énormément lue. Bon. Mais il y a, dans ces réunions du soir, des débats de fond sur toutes les questions. Hein. Alors, généralement, il y a un président, une présidente, il y a un orateur, mais pas forcément. Et surtout, c'est un lieu d'échange. Bon. C'est un lieu d'échange dans lequel les discussions sont enflammées. C'est-à-dire que les orateurs peuvent être pris à partie, mais il y a quand même un vrai... Globalement, ce sont des lieux de débat. Et avec... on acclame, on peut applaudir, etc. Mais les exposés sont écoutés. Et il y a la recherche de décisions. Parce qu'il y a des clubs qui cherchent simplement à permettre l'enseignement du peuple par le peuple lui-même, donc qui ont pour fonction de donner une éducation, de permettre le débat, etc. Et d'autres qui sont des lieux d'expression. Hein. Et dans ces lieux d'expression, on conspue les propriétaires, les riches, les prêtres, la religion, les magistrats, l'armée de métier, tous les possédants, et on aborde tous les sujets, hein, la liberté, la laïcité, la souveraineté populaire, la place du travail, l'émancipation des femmes. Bon, et on discute de ce qu'il faut faire. Et petit à petit, et de temps à autre, et ça va s'accentuer avec le temps, on a des décisions qui sont prises, des résolutions qui sont votées, qui expriment ce que l'Assemblée du soir réunit. Mais une salle comme l'Alcazar, ça peut être 2000 personnes, quoi. Hein. C'est pas des petites réunions de quelques dizaines de personnes. Hein. C'est vraiment... Et je crois que ce mouvement des clubs, est une des grandes forces de la Commune. Alors évidemment, elle a peu de traces, parce que par définition, à part les convocations, encore qu'elles sont assez succinctes, parce que dans la plupart des clubs, c'est des réunions tous les soirs, donc c'est assez simple. Il y a les motions votées, donc tout le reste est oral par définition. Mais il y a, me semble-t-il, dans ce mouvement des clubs, son horizontalité, hein, une force colossale, quoi, hein. Et il y a des orateurs qui sont spécialisés. Enfin, les gens participent à un ou deux ou trois clubs. Hein, ils ne vont pas en tous. Petit à petit, ce mélange l'intensité de ces débats-là crée un état d'esprit collectif. Et je pense que ça participe de la force de la Commune, avec une faiblesse évidemment. C'est que l'horizontalité. Ça permet à tout le monde de participer. Le problème, c'est qu'au moment de prendre une décision, comment toute cette maturation politique arrive à s'exprimer d'une manière unifiée, c'est la faiblesse. Mais je crois que c'est un des trucs importants qui s'est passé pendant les 72 jours de la Commune. Dernier point sur cette semaine, je voudrais citer une lettre qu'adresse, alors qui est en lien direct avec la Commune, mais qui vient pas de la Commune, qui vient de Marx, hein, parce que Marx est à Londres, il est extrêmement bien informé sur ce qui se passe à Paris, il a mis en place un système de transmission de presse, il a des relations épistolaire régulière avec Mitrieff, Frankel, et puis après c'est Raillé, donc qui envoie des comptes rendus dont on a perdu trace d'ailleurs pour l'essentiel. Et il y a une lettre qui est extrêmement importante qu'il envoie à Kugelmann le 12 avril. Hein, et c'est une lettre dans laquelle il dit la chose suivante. Dans le dernier chapitre de mon livre, je remarque, comme tu le verras, si tu le relis, que la prochaine tentative de la Révolution en France devra consister non plus à faire passer la machine bureaucratique et militaire en d'autres mains, comme ce fut le cas jusqu'ici, mais à la détruire. C'est la condition première de toute révolution véritablement populaire sur le continent. C'est aussi ce qu'ont tenté nos héroïques camarades de Paris. Quelle souplesse, quelle initiative historique, etc. etc. C'est un texte important parce qu'il marque une évolution qui existait dans l'international, autour de Marx et des réflexions de Marx, qui est en gros que fait-on de l'État bourgeois ? Bon. Et il y avait des discussions dans le mouvement socialiste sur est-ce qu'on prend l'État et on l'utilise pour les intérêts de la révolution socialiste. Et Marx, là, est en train de changer complètement de position, de dire on ne peut pas prendre l'appareil bureaucratique tel qu'il est, il faut le détruire et il faut le remplacer par une structure que le peuple ouvrier de Paris est en train de mettre en place, qui est le pouvoir populaire organisé par celles et ceux d'en bas.
C'était Du chien dans le ventre, la Commune de Paris au jour le jour. Aujourd'hui, épisode 4, l'outil à l'ouvrier. Un récit de Patrick Lemoyal avec la voix de Ego Agaray. Montage et réalisation, Pierre Baron.
Autorisé à ne pas sans arrêt reconnaître les mêmes erreurs. C'est le premier pouvoir ouvrier sur cette planète.